On va inviter deux autres participants à nous rejoindre, donc Cédric Monan pour l'esprit de patronage et puis Père Cédric Triponnet par rapport à la Fondation des apprentis d'Auteuil.
Bonjour à tous. Je m'appelle, moi je m'appelle Cédric Monan. Je suis là pour représenter l'incubateur Esprit de Patronage dont vous voyez l'image ici. Donc avant de parler de l'incubateur, je voudrais me présenter. Mais aussi avant ça, je remercie le Père Gilles pour la belle présentation sur les patronages qui a fait écho en moi à plein de choses puisque moi-même, peut-être avec un peu moins d'expérience quand même, je suis un enfant des patronages. Puisque dès l'âge de 7 ans, j'ai fréquenté le patronage de ma paroisse. Donc, ce n'était pas un patronage organisé par une communauté, par des frères, mais par vraiment la paroisse à Paris. Donc, dans ce renouveau lancé par la FACEL et le cardinal Lustiger, le patronage Saint-Joseph. Et ça a été pour moi un lieu très important de vie, comme j'ai pu le partager à certains parmi vous, puisque. Pour moi, le patronage ou la paroisse, puisque c'était un lieu, c'est un lieu où j'allais, je pense, 5 jours sur 7 dans ma semaine, puisque j'allais le mercredi, le samedi, et j'étais aussi en lien, j'étais à l'aumônerie, donc au catéchisme puis à l'aumônerie, et donc en fonction des années, ça changeait de jour. Et puis j'étais aussi dans une maréchanterie en lien avec, que j'ai connue par le patronage. Avec un chef de chœur qui est venu nous faire l'initiation le mercredi. Donc j'y allais aussi 2 fois par semaine. Donc, je me suis retrouvé à aller 7 jours sur 7, 5 jours sur 7 à la paroisse et au patronage. Voilà. J'ai eu la chance de partager ça avec. Donc moi j'ai 4 frères. Avec mes frères, puisqu'on était rapprochés en âge et on est tous allés ensemble au patronage. Et on a tous été marqués par un de nos éducateurs. Qui est arrivé justement au moment où pour moi le patronage se terminait, puisque c'était la fin du primaire. Et lui, en arrivant, a dit non, on va continuer. Et vous, vous êtes au collège l'an prochain, mais vous allez revenir et on va s'occuper des plus jeunes. Il était notre responsable à l'aumônerie. Il a réussi à nous prendre avec lui pour nous emmener au patro pour s'occuper des plus jeunes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'y suis encore. Et je travaille vraiment à temps plein pour l'incubateur Esprit Patronage. Mais pas uniquement, puisque ça a tellement convaincu mes parents qu'aujourd'hui ma mère dirige un patronage et puis mon frère aîné dirige un patronage. Voilà. Donc, voilà, pour vous partager que c'est pas juste voilà, quelque chose parmi d'autres, une proposition parmi d'autres, mais vraiment quelque chose qui marque, je pense, bon nombre d'enfants. Pourquoi j'ai atterri chez Esprit Patronage? Parce que j'ai été 3 ans éducateur au patronage du Bon Conseil, dont vous avez entendu parler. Et là-bas, j'ai été progressivement introduit, on va dire, au Centre La Parent pour l'éducation, qui est l'organisme de formation du patronage du Bon Conseil, qui est au départ un organisme de formation BAFA et BLD, donc c'est les brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, qui sont comment dire, les diplômes classiques, les brevets classiques pour pouvoir encadrer dans un patronage qui, en fait, dépend du cadre juridique des accueils collectifs de mineurs. Et dans le renouveau récent des patronages, avec le lancement de l'Union des patronages, le Centre La Parent a été missionné pour être un incubateur pour la formation des équipes voulant lancer un patronage. Et donc, c'est là qu'arrive l'incubateur Esprit de patronage. Donc, qui est en quelque sorte une mission portée par le Centre La Parole pour l'éducation, qui a pour objectif d'accompagner toutes les équipes qui veulent aujourd'hui ouvrir un patronage ou retrouver cet esprit de patronage dont le Père Gilles a parlé, et, voilà, pour retrouver cet esprit de jeu. Voilà. Et donc, nos missions, elles sont diverses. Et notre objectif, c'est de développer des outils. Voilà, c'est assez concret mais aussi aujourd'hui numérique pour aider les équipes locales à lancer leur patronage. Et donc notre spécialité c'est de ce lancement en accompagnant dans la création d'une association, voilà, l'écriture des statuts, donc un aspect assez vraiment associatif. Quels sont les éléments de langage à mettre pour que dans l'objet de l'association on puisse ouvrir un patronage. Voilà, la rédaction du projet éducatif, etc. Donc on a tout cet aspect vraiment administratif. qu'on développe, et puis aussi un aspect pédagogique voilà, qu'on présente lors d'une formation qui est un peu le point de départ de notre accompagnement. Et donc on a fait un petit travail historique aussi sur cette histoire des patronages pour essayer de voir quels sont les éléments qui font le propre de la pédagogie des patronages, comme voilà, à la distinction par exemple du scoutisme ou d'autres œuvres de jeunesse, et pour voir qu'est-ce qui fait la force des patronages aujourd'hui, et, pour en fait mettre en avant voilà, ce modèle, cette proposition qui répond à un vrai besoin. Et donc, pour reprendre un petit peu, d'abord en un mot encore, notre objectif c'est aussi enfin de développer des événements inter-patronage pour, comme l'a évoqué Hyperville encore une fois, pour essayer de croiser et, toutes ces initiatives pour que ça ne soit pas juste des cas isolés, mais qu'il y ait vraiment une sorte de mouvement voilà, général avec des rencontres inter-patronage comme il a pu en exister, comme moi j'en ai fait enfant, organisé par les frères de Saint-Vincent-de-Paul, les rencontres sportives inter-patronage. Voilà. Et donc, c'est aussi une de nos missions. Donc, pour reprendre un peu le cadre des patronages aujourd'hui, sans m'attarder, avant de parler du lien avec le sport, donc aujourd'hui, ça prend la forme d'un accueil collectif de mineurs, donc c'est un accueil de loisirs, concrètement, qui permet d'y faire pas mal d'activités. Et donc, aujourd'hui, en effet, il y a autant de patronages que de modèles de patronage, entre guillemets, puisque c'est adaptable vraiment à la situation. Donc, on essaie d'insister sur le fait que le point de départ, ça doit être un besoin qu'on observe. Voilà. Alors, et le point de départ amène toujours à ce qu'on fait les patronages, à savoir le jeu et la prière. Mais voilà, ça peut être au départ, comme angle d'approche, en effet, le soutien scolaire. Ça peut être le fait d'occuper le mercredi après-midi. Et l'objectif, c'est que ça soit vraiment la porte d'entrée à ce lieu de vie où les enfants viennent jouer et prier. Voilà. Donc ça, c'est le premier point de l'ADN des patronages qu'on a essayé de mettre en avant. C'est ça, c'est le fait que bah, dans un patronage, on vient pour jouer et pour prier. Alors, comme on est sur le sport, si je peux me permettre, je pense que le Père Gilles vous avez fait en quelque sorte un but contre votre camp, puisque vous avez commencé à dire que le jeu était un appât, alors qu'en fait, après, vous avez fait tout un témoignage pour montrer que le jeu était non seulement un appât, mais justement le lieu aussi de cette évangélisation avec le contact des jeunes qui ne sont pas les mêmes dans une chapelle que dans la cour. Donc voilà, merci pour ce témoignage. Et donc, l'idée de cette devise, c'est vraiment de décloisonner les dimensions de la vie du chrétien. Voilà, la prière, c'est pas ce qu'on fait seulement à la maison ou à l'église, dans notre chambre, cloîtrée, mais c'est aussi, il y a une dimension communautaire. Et donc, dans un patronage, on la vit en groupe et on la vit partout. On peut avoir un temps de prière sur le terrain de foot à la fin d'une bonne partie, quand on termine. Voilà, on se félicite et ensuite on se tourne vers la croix et on termine par « Je vous salue Marie ». Et justement, il y a vraiment cette idée de décloisonner cette vie quotidienne pour remettre en avant l'unité de vie du chrétien qui peut passer du jeu à la prière. J'insiste un peu sur le jeu parce que c'est aussi donc, l'activité des enfants en premier, parce que c'est ce qu'ils font naturellement. Et c'est un lieu dans lequel, en fait, se joue... Il n'y a pas de finalité au jeu autre que le jeu lui-même. Et j'insiste là-dessus parce que c'est peut-être ce que peut apporter le patronage au monde du sport. C'est donc un indicateur de ce jeu comme finalité du jeu lui-même, c'est la joie. Et pour observer qu'un groupe joue, et joue vraiment, et n'est pas juste en train de faire du sport, et ben voilà, il faut observer sa joie. Et le père de Mélo, donc, qui a été directeur du Bon Conseil et qui a l'initiative de l'incubateur Esprit de Patronage, entre autres, aime beaucoup dire que quand il était directeur du Bon Conseil, moi je l'ai vu puisque j'ai été éducateur là-bas, il venait nous voir pour nous dire voilà, quand vous êtes sur un terrain de foot, vous devez voir de la joie. Si jamais les enfants ne jouent pas, vous arrêtez et vous changez de jeu. Voilà. Puisque au patronage, on peut faire du sport, mais si on est dans le jeu. Voilà. Donc c'est peut-être aussi une petite distinction qu'il y a avec le monde professionnel qui a qui a aussi un objectif de compétition, etc. Mais voilà, au patronage, le premier enjeu, c'est de vivre ensemble, et donc c'est la joie. Donc, ça, c'est le premier point de l'ADN. Le deuxième, ce serait le fait que, même si c'est un accueil collectif de mineurs, concrètement, et que ça prend la forme d'un accueil de loisirs, comme il pourrait y avoir un centre aéré dans une école, c'est un lieu de vie où il y a la présence d'un consacré. Et ça, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que déjà, symboliquement, le prêtre ou le consacré, c'est celui qui représente l'Église, même s'il n'est pas le seul, il y a des laïcs également. Mais le prêtre en particulier, c'est celui qui représente le Christ au milieu du groupe d'enfants. Et l'idée du patronage, c'est d'essayer de refaire la représentation un petit peu du royaume de Dieu, mais à l'échelle de l'enfant. Et donc, c'est un accueil de loisirs, en effet, mais où on retrouve tous les états de vie. Et alors que dans un accueil de loisirs en école, on est face à des animateurs, et uniquement des animateurs, mais dans un patronage, on va insister sur le fait qu'il y ait des jeunes, des grands jeunes, des personnes, des laïcs mariés, des consacrés, un prêtre. Voilà. Et donc, c'est un lieu de vie où on retrouve toutes ces dimensions de la vie de l'Église. Voilà. Ça, c'est un peu le deuxième point de cette ADN. Le troisième, et là, encore une fois, ça rejoint la conclusion du Père Gilles, c'est le fait que le patronage ne s'arrête pas à la fin du primaire. Le patronage est une vraie école de responsabilisation. Et c'est un lieu où les enfants, après avoir été acteurs, en recevant, disons, toutes ces activités, progressivement prend des responsabilités dès la fin du primaire et puis progressivement au collège. Et ce cadre permet aux enfants non seulement de trouver leur place dans ce qui devient une seconde maison pour eux, mais en plus de prendre des responsabilités très concrètes qui vont les aider ensuite à passer à l'âge adulte. Et ça peut être... ça peut commencer par, pendant les inscriptions, offrir le café aux parents qui arrivent. On peut confier... moi, j'ai été marqué enfant par mon directeur qui m'a confié la carte bancaire du patro, qui m'a dit, tiens, va acheter le goûter. Et je me suis dit, oula, il me donne... il n'y avait pas encore le sans contact en plus, donc il m'a donné le code. Et puis il m'a dit, va acheter le goûter. Et à aucun moment, enfin moi, c'était quelque chose de précieux. Je me suis dit, ok, je vais le faire très consciencieusement et voilà, je le remercie pour cette confiance qu'il m'a fait. Voilà, c'est un lieu de vie où au collège, au lieu de quitter le centre aéré, en fait, on prend place dans l'équipe éducative dès l'âge de 11-12 ans. Et progressivement, bien sûr, on ne devient pas animateur BAFA et responsable à 12 ans, mais dès 12 ans, on peut être chef d'équipe dans un jeu, on peut être responsable de distribuer le goûter, etc., etc. Voilà. Donc, nous, notre objectif, c'est de présenter ce modèle aujourd'hui des patronages et cette pédagogie à toutes ces équipes qui veulent lancer un patronage sur le terrain. Et pour ça, on a une équipe de tuteurs dont je fais partie aujourd'hui. Et on est chargé, aujourd'hui, on accompagne à peu près 300 patronages ou projets de patronage avec l'inculateur. Et donc, on s'est réparti en quelque sorte un portefeuille de patronage par région pour essayer de faire ça aussi, faire du lien local. Donc moi, je m'occupe des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et donc, entre autres, le patronage du père Marie-Louise à Aubusson. Et l'objectif, c'est de présenter ça et proposer cet accompagnement de façon aussi personnalisée. Et donc, nous, tout ce qu'on fait, on le fait gratuitement. Puisque notre objectif, c'est de mettre à disposition cette richesse de la pédagogie sans que le moyen financier soit un frein à ça. Voilà, vous allez me dire quel est le lien particulier avec le sport. En fait, il y en a plein. Et donc là, mon objectif, c'est de présenter un peu tous les liens avec le sport qu'on peut faire dans les différents modèles de patronage. Le premier, il est que un patronage, le père encore une fois l'a dit, Père Gilles l'a dit, c'est un lieu où on fait de l'activité physique. Puisque dans le jeu, on joue, on court et on a tout un tas d'activités physiques et où vraiment le sport est au centre. Ça, c'est vraiment ce qui regroupe un peu tous les patronages. Mais voilà, parmi les initiatives qui existent, même si celle-ci est générale, il y a aussi des patronages qui ont choisi de commencer par une activité sportive. Encore une fois, je pense au père Marie-Doris qui a commencé par un camp foot. Des camps où on apprend à jouer au foot, on fait des tournois, etc. Avant de se tourner vers le patronage comme une proposition plus large dans une démarche d'éducation intégrale, où au patronage, bien sûr, il y a le sport, mais on peut aussi trouver des pratiques culturelles, du théâtre, de la peinture, de toutes sortes. Voilà. Donc, le sport comme porte d'entrée vers le patronage. Voilà, ça, il y en a pas mal. Je pense à le patronage du Sacré-Cœur de la communauté Saint-Martin, le patronage Saint-Donatien à Nantes, voilà, il y en a tout un tas qui commence par une activité sportive, souvent le foot, c'est vrai, parce que c'est aussi une des plus accessibles, une des plus parlantes, universelles. Pour aller encore vers un autre modèle, il y a des patronages qui sont aujourd'hui bien en place, qui marchent bien, et qui pour développer leur offre éducative, si je peux parler comme ça, choisissent de pas uniquement aujourd'hui s'arrêter à un jeu libre, un temps libre de jeu dans la cour avec un grand jeu, pourquoi pas, etc., mais de proposer des activités sportives. Je pense au patronage dans lequel j'ai grandi, qui est un club de judo, voilà, des cours de judo. Je pense à tout un tas de patronages qui aujourd'hui, pour se développer et pour toucher plus de jeunes, essayent de développer soit voilà, une activité de foot, une activité de rugby, une activité par exemple de tir à l'arc comme patronage d'Elancourt. Voilà, avec tout un tas d'initiatives. Donc nous, dans notre accompagnement, on essaye aussi de penser la place du sport dans cette réflexion sur l'éducation intégrale. Qu'est-ce que le sport peut apporter de complémentaire au jeu dans le développement de l'enfant. Donc là, il y aura tout un tas de réponses, puisque ce n'est pas uniquement, ça vous le savez plus que moi, pas uniquement l'aspect physique, mais aussi sur l'aspect plus intellectuel, sur la tactique, la vision du jeu qu'on peut avoir dans un sport comme le foot, etc. Sur l'aspect moral, un sport comme le judo, des valeurs comme la maîtrise de soi, plein de valeurs qui sont vraiment apportées par la pratique du sport, complémentaires à la fois des vertus chrétiennes et de ce qu'on peut vivre dans le patronage, mais aussi un aspect social, avec peut-être un accent sur les sports collectifs dans les patronages. Voilà, on prie ensemble, on joue ensemble, et donc on met l'accent sur ces sports collectifs. Et puis, une dimension, bien sûr, spirituelle, ou aussi dans le sport, parfois on touche nos limites, et donc, on se tourne aussi vers Dieu par ça. Le sport qui apporte tout un tas d'éléments éducatifs complémentaires au jeu. Le dernier modèle un peu des patronages qu'on accompagne, c'est peut-être les patronages avec un lien historique. Donc, on l'a vu, il y a tout un tas de patronages qui ont développé des sections sportives tout au long du 19e et du 20e siècle, avec des accents sur la gymnastique, mais aussi par exemple le patronage du Bon Conseil. Dans l'histoire du lieu, on aime bien dire que l'abbé Esquéré est celui qui a apporté le basket en France avec les premières écoles de basket en lien aussi avec le patronage Saint-Hippolyte, je crois, à Paris. Et donc le sport est arrivé par les patrons, donc le basket. Où aujourd'hui il y a toujours un club de basket dont une des grandes fiertés c'est qu'on a un club, les seniors d'une catégorie de basket sont champions de France de leur catégorie. Donc voilà. Où le sport prend vraiment une place d'un club et participe, que ce soit à la Fédération française de football, au foot, ou au tournoi de la FSCF, etc. Donc il y a des patronages historiques comme le patronage du Bon Conseil où il y a ce lien encore très clair avec des clubs de sport. Et puis aujourd'hui, il y a des patronages historiques qui ont perdu. Qui se sont sécularisés, qui ont perdu leur lien avec l'Église, qui se tournent vers nous, l'incubateur Esprit de Patronage, pour retrouver cet esprit et remettre en place un temps d'activité autour du jeu et de la prière. Je pense au moins à deux patronages avec lesquels je suis en lien dans le sud-ouest et également dans le nord-ouest. Donc l'Espoir Mugronais, à Mugron dans le sud-ouest, mais aussi le patronage de l'Aiglon à Bordeaux. Le patronage de l'Aiglon qui aujourd'hui est uniquement un club de gym avec plus de 100 licenciés et qui s'est tourné vers moi pour me dire, mais voilà, nous on voudrait réintroduire le jeu et la prière avec une présence plus importante de l'aumônier, etc. Comment penser une journée où les licenciés au club de gym peuvent venir pour partager un goûter, voilà, avoir un instant de prière et repenser même la logistique, la circulation du lieu pour que, alors qu'on est dans des lieux paroissiaux et que beaucoup l'ignorent, l'Église reprenne sa place dans cette structure. Voilà. Je pense aussi au cadet de Bretagne, qui a aujourd'hui un gros club de sport, qui nous vient de nous contacter pour voilà, faire ce même travail. Voilà. Donc pour conclure, toutes ces initiatives, vous les voyez, elles ont des liens avec le sport, mais de façon vraiment diverse. Et donc, je pense qu'une des grandes forces du modèle du patronage, c'est que voilà, on part d'un besoin local, on part d'une demande, et nous, notre rôle, c'est d'essayer de partir de cette demande pour la rendre concrète et essayer de réintroduire ce lien à l'Église voilà, par ces points de l'ADN que je vous ai présentés. Et en introduisant dans le monde du sport voilà, ces aspects de jeu, de joie, avec encore un dernier exemple, par exemple le patronage Sainte-Mélanie à Paris qui organise un tournoi de l'amitié, je crois, avec des équipes seniors tous les 11 novembre, voilà, qui ont introduit non seulement la coupe pour le vainqueur, mais la coupe François Mialaret pour le bon esprit, voilà, l'équipe qui a le meilleur esprit dans le jeu. Et réintroduire ces éléments-là dans le monde du sport, voilà, grâce au patron.
Merci Cédric. On va passer à un autre Cédric.
Voilà. Alors je vais vous parler de la Fondation d'Auteuil et de la dynamique du sport dans le projet éducatif de la Fondation d'Auteuil. Alors la Fondation d'Auteuil, je pense que vous en avez tous entendu parler, ou les orphelins apprentis d'Auteuil, ou l'œuvre d'Auteuil, est-ce que vous voyez à peu près? Oui, ça va? Pour les médecins qui ne connaissent pas trop, parce qu'on n'en a pas dans le coin, il y a une maison à Strasbourg. C'est une espèce de patronage qui a bien réussi. Ça a été fondé par l'abbé Louis Roussel, mais ce n'était pas directement dans une optique de patronage, même s'il a utilisé ce qui ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à un patronage. Vous savez, les curés de paroisse, et j'en souviens, on n'a jamais une vision désintéressée des choses. En général, quand on fait quelque chose, il y a toujours quelque chose derrière. Et donc, l'abbé Roussel a mis en place cette œuvre qu'il a prise pour les jeunes avant la guerre de 70 et qui a pris son essor après la guerre de 1870, dans le but non seulement de nourrir les jeunes en situation précaire pour leur éviter de tomber dans la délinquance, mais de les éduquer et de leur permettre de s'insérer. Et lui, son optique, c'était de dire, c'est la première communion, la nourriture de l'Eucharistie qui leur permettra d'être pleinement en communion avec les autres et de grandir dans le Christ. Du coup, ça s'appelait initialement l'œuvre de la première communion. Et de là, ça s'est développé dans cet esprit-là. Et au cœur même de la pédagogie d'Auteuil, il y a ce qu'on appelle en théologie catholique la dimension intégrante. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous en avez parlé hier? Est-ce que ça vous parle de la dimension intégrante? Non? Très brièvement, pour que vous compreniez et vous allez dire, ah, mais en fait, c'est ce qu'on fait. Ça va vous rassurer. La dimension intégrante, c'est justement de dire que il faut considérer une personne dans la totalité de ce qu'elle est et que la proposition qu'on doit lui faire pour l'aider à grandir, à se structurer, elle doit justement tenir compte de tout ça. La dimension intégrante, c'est que l'éducation pastorale doit viser une intégration harmonieuse de toutes les dimensions de la personne, pas seulement corps, âme, esprit, mais aussi relation aux autres, insertion dans une relation avec les autres. Et donc du coup, dans la pédagogie de la Fondation d'Auteuil, dès le départ, on vise à ce que une éducation, une foi et une vie chrétienne unifient et ne fragmentent pas. Ça veut dire que dans la devise actuelle de l'œuvre d'Auteuil, qui est accueillir, éduquer, former, insérer, on retrouve intégralement ce qui vient d'être dit avant moi dans les patronages, un accueil, accueillir, éduquer. Alors, et bien sûr, éduquer en latin, educere, conduire à un autre que soi, conduire à une autonomie, conduire finalement à la vie. Et dans la pédagogie de la Fondation d'Auteuil, le sport ou toute autre activité qui permet de créer du lien et de mettre un jeune en confiance va être employé. Et du coup, il n'est pas rare que dans les maisons d'Auteuil, un jeune qui décroche, un jeune qui pète un câble, un jeune qui est en souffrance, on le sort du système scolaire classique pendant une semaine. Et pendant une semaine, on va le faire faire du sport. Pendant une semaine, on va l'emmener à une ferme pédagogique si on a une ferme. Moi, j'ai été 6 ans dans une maison en Picardie qui rejoignait un projet complètement laïque. Alors, laïcard avait un peu plus laïcard, parce que au 19e siècle, quand les curés faisaient leur patronage, un anticlérical humaniste, Gabriel Prévost, a engagé toute sa fortune pour créer une maison pour accueillir les enfants des prostituées de la ville de Paris, pour leur donner une structure éducative, mais surtout pour les éloigner des curés, pour qu'ils puissent être libres, etc. etc. Et c'était l'orphelinat de la ville de Paris jusqu'en 1986. Et en 1986, Paris confie cette œuvre Leichhardt à la Fondation d'Auteuil et en a fait une chapelle sur place. Alors, ça a été tout un drame. Et en fait, on s'est rendu compte que même ce Gabriel Prévost portait dans sa vision laïque tout sauf la dimension de l'Évangile, et on n'a pas eu grand-chose à faire pour reprendre les équipes. Et bien dans ce terrain-là, on avait évidemment un terrain de foot, un terrain de rugby, un terrain de basket, et un gymnase, plus une ferme pédagogique pour 280 élèves. Pour 280 élèves, on avait un terrain de foot, un terrain de basket, un terrain de rugby, un gymnase. C'est dire l'importance de la place du sport dans le projet éducatif qui était porté au collège Marcel Callot. Et là-dessus, une ferme pédagogique. Donc un jeune, il pète un câble, plutôt que de le prendre entre quatre yeux avec le chargé de cours, le préfet de discipline ou les éducateurs, etc., on va dire, écoute, on va te sortir, et c'est par le sport qu'on va te remettre sur rail. Et il y avait des animateurs, vraiment, des éducateurs sportifs, qui pendant une semaine établissaient un projet intégralement basé sur le sport, avec une heure de lecture, une heure de maths, une heure de français, entre tout ça, on ne peut pas courir tout le temps pendant une semaine, et de reconduire à réintégrer le jeune dans la classe, dans des classes qui étaient des effectifs de 17-20 maximum. Et donc dans l'œuvre d'Auteuil, cette place du sport, ce développement de l'esprit de patronage jusque dans un système éducatif complet avec accueil et maison, donne des fruits à l'heure actuelle extraordinaires. Et du coup, il y a des tournois intermaisons, les maisons se rencontrent pour un tournoi de foot, les maisons se rencontrent en fonction des clubs qu'on a, la Fondation d'Auteuil met le paquet pour permettre que le sport ait toute une place dans la pédagogie éducative de l'œuvre. Alors, sur quoi cela s'appuie en principe? Donc je vais vous parler de la théologie intégrante, la dimension intégrante de la personne, accueillir une personne non pas pour en faire seulement un cerveau, non pas pour lui donner seulement une compétence technique, parce que la majorité, on parle des orphelins apprentis d'Auteuil, puisque l'essentiel de l'enseignement qui est dispensé dans l'œuvre d'Auteuil, ça reste des formations techniques. Parce que là aussi, au fur et à mesure de l'histoire de l'œuvre, le troisième directeur, qui est un type brillant, qui est bien heureux d'ailleurs, avec sa verbare, le père Brottier, avait le sens du marketing et il avait une vision très grande des choses. Vous avez déjà pris le métro à Paris, j'imagine, vous avez vu qu'il y a un peu de pub dans les métros. Vous l'avez vu. C'est le père Brottier qui a inventé la pub dans le métro parisien dans les années 30 pour récolter des fonds pour depuis la RATP a bien compris le truc. Mais c'est l'abbé Brottier qui était le premier à mettre des affiches publicitaires dans le métro. Voilà. Pour vous dire à quel point l'œuvre d'Auteuil a toujours eu des caractères. C'est aussi celui qui a inventé la dragée verte. Ah, ça, c'est une autre histoire, mais c'est intéressant parce que c'était des choses. L'abbé Brottier était aumônier de la Grande Guerre à Verdun, et vous savez tous que la spécialité de Verdun, c'est la dragée. Et donc, dans ce temps-là, il y avait des dragées blancs, c'était pour les baptêmes, il y avait des dragées bleues, pour les mariages, dragée blanche, dragée bleue pour les baptêmes des garçons, dragées roses pour les baptêmes de petites filles. Mais si on voulait manger des dragées et qu'on n'était pas invité à un baptême, un mariage, ben, c'était plus compliqué. Donc, à Auteuil, on a fait la première usine avec les jeunes de dragées vertes. Voilà. Donc, c'est comme ça que les bonnes bourgeoises parisiennes ont pu manger des dragées sans être invitées à des baptêmes et des mariages. Et encore toujours, d'ailleurs, au siège d'Auteuil, une bande de dragées, même si c'est tout traité aujourd'hui. Mais c'est historique. Tout ça pour vous dire que dans l'œuvre d'Auteuil, dès le départ, dans cette espèce de patronage qui s'est développé et qui a réussi, on a aujourd'hui toujours à cœur d'utiliser intégralement ce que vous avez entendu dans les historiques et dans l'esprit du patronage aujourd'hui, et qu'en plus, on a monté en un système où on parle de la famille d'Auteuil, où un jeune qui rentre dans le patronage, dans la fondation d'Auteuil, rentre dans une famille qui va le suivre et l'accompagner toute sa vie. À l'heure actuelle, les plus jeunes que la Fondation d'Auteuil accompagne, c'est des anciens qui peuvent avoir 75-80 ans, et il y a une structure qu'on appelle l'accueil Gabriel, pour les anciens d'Auteuil qui aujourd'hui, plutôt à l'automne de leur vie, ont besoin encore d'un soutien, soit éducatif, soit tout simplement humain, et dans le 16e, vous avez un accueil pour les anciens, où on va leur permettre de jouer un patronage de Dieu, non, un patronage d'anciens, où on les accueille pour jouer, et à partir du jeu, de reprendre toute la dimension, alors un peu moins tout, mais à partir du jeu, de reprendre ce qui avait pu être fait quand ils étaient ados, quand ils étaient plagés chez nous. Et donc cette dynamique du patronage, elle fonctionne même pour les anciens et pour les plus grands. Et du coup, la famille d'Auteuil met les jeunes en responsabilité, si bien qu'on parle du circuit d'Auteuil. Un ancien d'Auteuil qui a réussi à fonder sa boîte, on le contacte, il va reprendre 5-6 jeunes de la Fondation d'Auteuil pour les mettre sur les rails. Et c'est exactement cette même dynamique du patronage où les plus grands vont accueillir un plus jeune pour participer. Alors c'est poussé dans des systèmes plus grands. Alors je ne suis pas pour faire la promotion de la Fondation d'Auteuil, mais objectivement, c'est un déploiement de tout ce que vous avez entendu depuis ce matin et qui marque profondément les esprits et le paysage. C'est la première association catholique après la séparation de l'Église et de l'État qui a été reconnue d'utilité nationale, 1930. Et ça reste aujourd'hui la première fondation qui récolte des fonds en France, devant, juste derrière aussi l'Action et le Téléthon. Après, il y en a d'autres, mais c'est quand même une œuvre extraordinaire qui développe à travers le sport et à travers ces activités-là, l'esprit du patronage aujourd'hui, et on en voit les fruits, puisque l'État laïque demande chaque année de plus en plus à la Fondation d'Auteuil, soit de reprendre des structures d'État, soit d'ouvrir de nouvelles maisons. Donc c'est un petit peu le paradoxe, un des paradoxes supplémentaires de notre pays, mais la Fondation d'Auteuil est sollicitée de façon permanente, même dans certains cas, par des communes pour mettre en place un périscolaire. Un patronage qui n'est pas seulement. Et ça, c'est très intéressant pour la Fondation d'Auteuil. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la place du sport, les articulations d'Auteuil. Et si vous voulez un petit peu comprendre une pédagogie pratique, je vous invite à chercher sur Saint-Google. Vous chercherez Janine Guindon. C'est une Canadienne qui était prof à l'Université de Québec et qui a mis en place ce qu'on appelle la psychoéducation, qui est ce pont entre la psychologie et l'éducation, et qui développe à partir de grands philosophes et psychologues ce qu'elle appelle le développement des forces vitales humaines ou la réactivation des forces vitales humaines. C'est-à-dire aller chercher chez une personne ce qui fait son point de confort, là où elle est consciente d'avoir réalisé quelque chose de bien, et de bâtir toute une pédagogie à partir de ce point où la personne a conscience qu'elle a réussi quelque chose. Vous accueillez un jeune qui est en situation d'échec scolaire, vous lui faites faire un match de foot, il marque un but. Vous êtes capable de bâtir toute une pédagogie à partir de ce but qu'il a marqué, qu'il a mis en confiance et pour laquelle il est fier. Et c'est vraiment le développement de la Fondation d'Auteuil dans la pédagogie et qui a toute sa place dans les patronages et surtout à partir de...
Merci Père Cédric. Peut-être des compléments, si vous souhaitez, l'un ou l'autre. Sinon, on peut aussi répondre à telle ou telle question. question de la santé.
Alors, un tout petit complément. J'ai apporté des catalogues si vous êtes intéressé par ouvrir un patronage. Il y a toutes les informations qui sont dessus. Je les ai mis derrière là-bas. Voilà, n'hésitez pas.
Oui. Ceci.
C'était une question par rapport à l'intervention du père Gilles Morin, que j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Je retiens on joue et on prie. Ma question, elle est, est-ce que si l'intention finale est de prier, j'ai l'impression que le mot jouer est là pour attirer la personne. Donc est-ce qu'on avance de manière cachée ou tout n'est pas vraiment transparent? C'est un peu ça ma question, c'est plutôt une question de fond. Est-ce que le jeu en roule à chevelle, donc l'emballage, ça n'a pas très important. Voilà, c'était par rapport à l'état d'esprit de la chose qui est mise en place.
Alors déjà, de bien maintenir les deux liés. Voilà, pas cloisonnés. Bien sûr, dans une vie de patron, il y a les temps de jeu, et puis les temps de prière, voilà, de formation. C'est pas comme si on disait, ben là, tu es dans ton jeu, etc. Puis là, on passe dans la case chrétien. On a parlé de, justement, de l'éducation intégrale. Donc, bien maintenir ce lieu. Deuxième remarque, normalement, mais ça dépend aussi de chaque patron, on peut pas, on n'a pas le droit de tromper les gens. On n'a pas le droit de mentir. Donc, on dit clairement qui on est. On dit clairement qui on est. Alors, ben, ça ne veut pas dire pour autant que quelqu'un va dire ah, ici c'est chrétien, donc moi je ne mets pas les pieds. Parfois c'est le cas. Et par contre, celui qui vient et puis qui vient pour jouer, on lui dit clairement que ah ben, on va aussi prier. Et ça, c'est le lien avec les parents. Et quand je parle d'appât, de piège, c'est au sens tout à fait positif. Hein. C'est pas pour tromper les gens. C'est le fait que des parents, ils ont un besoin, ils ont une attente, ils cherchent un lieu éducatif, ils cherchent parfois simplement une garderie pour occuper leur enfant. Enfin, peu importe, les motivations sont très diverses. Mais on leur dit d'emblée qui on est. Qui on est. Voilà. Le patron, c'est ça. Je prends le parallèle qui est récent, hein, qui est dans l'actualité de l'enseignement catholique, hein, la nouvelle figure là, qui dit bah oui, dans l'enseignement catholique, on va prier. Il n'y a pas à s'étonner, si on dit c'est l'enseignement catholique, c'est une école catholique. On ne doit pas s'étonner qu'on prie dans une école catholique. Et il avait cette formule qui m'a fait beaucoup sourire, je pense que c'est à peu près ça. On ne va pas dans un restaurant chinois pour commander une pizza. Oui. Ben, dis c'est un patron chrétien. Ben, si un patron chrétien, je sais que c'est chrétien. Après, avec le respect naturellement de la liberté, on ne va pas contraindre les gens à prier. Par contre, ben, ils vont entendre quand même. Ils vont entendre. C'est l'évangélisation.
Notre question ou remarque ?
Oui, une question aussi, c'est dans le prolongement de votre exposé. On a bien compris que, de vos exposés, que la place d'une personne consacrée ou d'un prêtre qui prend du temps, pas juste pour faire un petit peu de spiritualisation, de prière, mais qui est vraiment présent avec les jeunes, avec les enfants, c'est quelque chose d'essentiel dans l'ADN hein, des patronages. Est-ce que ça ne condamne pas quelque part le fait qu'il n'y ait que très peu de lieux où une paroisse peut consacrer du temps aussi déployé, je veux dire, dans notre diocèse, on aura le témoignage de Thionville, il y a plusieurs prêtres et donc ils ont fait le choix de consacrer du temps, et ça c'est chouette, mais beaucoup de curés de paroisses où il y a moins de regroupements de prêtres ensemble, ils sont très sollicités par beaucoup de choses. Donc, est-ce que ça ne limite pas? Est-ce qu'il n'y a pas à déployer un laïcat motivé qui soit représentant de l'Église dans ces lieux-là? C'est une question. Hein.
Le père Dion, avec qui je travaille pas mal, qui est donc un des fondateurs de l'esprit de patronage, aime bien dire que quand on pense une journée de patronage, évidemment que le prêtre ne peut pas être partout, vous donner quelques chiffres. Au patronage du Bon Conseil, il y a à peu près 3000 adhérents qui font une activité dans l'année. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent chaque jour, on est d'accord, mais voilà. Et il y a à peu près 500 personnes qui passent dans la semaine, 300 le mercredi. Il y a un prêtre. Alors oui, il ne peut pas être dans toutes les activités. Mais par contre, dans l'organisation des choses, on a mis en place, enfin, il a mis en place tout un tas de choses dans l'esprit de la maison qui permet de donner une place à la figure du prêtre et donc à l'église dans toutes les activités. Et donc, dans la charte du patronage, il peut entrer dans n'importe quel cours, à n'importe quel moment, et à ce moment-là, l'activité s'arrête, on va le saluer, et puis il peut dire un mot et continuer. Et tous les salariés, puisqu'il y a près de 40 salariés au Bon Conseil, doivent accepter, adhérer à ce projet. Et donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, dans la journée, quand on passe du jeu à la prière, déjà seul, il n'y a pas seulement le prêtre qui peut faire prier les enfants. Moi-même, quand j'ai été directeur d'un patronage à Paris, pendant 2 ans, l'aumônier m'avait dit, ben moi, clairement, je n'ai pas le temps de passer en journée 3 fois comme pour les 3 temps de prière. Et donc, on avait compris, ben, pas de souci, on commence la journée à l'oratoire, c'est moi qui mène la prière, on la termine, en début d'après-midi, on prend quelques chants de louange, et là, c'était les animateurs qui les prenaient. Mais par contre, le soir, il était là pour saluer les parents et pour avoir un petit temps d'enseignement avec les enfants. Et donc, en fin de compte, tous les enfants avaient bien conscience qu'on était dans la maison du père, entre guillemets, puisque c'est lui qui accueille les parents, c'est lui qui dit un mot aux enfants sans être là toute la journée.
Pour la dimension en paroisse, ça dépend aussi d'une attitude et de la posture que le prêtre choisit d'avoir sur sa paroisse. C'est-à-dire que si on veut être cantonné à ce que les gens ont comme stéréotype sur nous, l'homme du sacré qui vient, qui fait pif paf pouf à la bouffe, qui fait une petite bénédiction par-ci, une petite bénédiction par-là, ça, effectivement, ça ne peut pas marcher. L'attitude du pasteur, elle doit être donc sur une paroisse, c'est là, c'est en tant que curé que je parle, dans cet esprit de patronage. En fait, on peut tout à fait faire vivre une paroisse dans un esprit de patronage. Où ici on joue, ici on prie, ben ici on mange, ici on prie, ici on boit, ici on prie. Cette dynamique de la convivialité, de l'échange et de la présence du prêtre change complètement les choses. Dimanche dernier, nous avons fait un repas paroissial, j'ai cuisiné 22 kg de gratin dauphinois que j'ai servi aux gens. Et ben, je peux vous dire que même ceux qui sont venus juste parce que c'était le repas de la paroisse du village et qu'il fallait venir au cas où, je ne sais pas quoi, eh bien, ça engendre une relation autre, parce que quand on est en service autre que de bénir, quand on est dans une attitude, dans une posture autre, se jouent les mêmes enjeux pastoraux que ceux d'un patronage. Et donc, ça dépend après aussi du charisme de chaque prêtre et de la posture qu'il veut avoir, soit sur sa paroisse, soit dans un patronage.
Je voudrais ajouter une question qui est très concrète, c'est l'espace, la manière dont les lieux sont finalement conçus. Hein, on peut avoir une chapelle, un oratoire, et c'est dans une pièce au bout. Le bureau du prêtre, de l'aumônier peut être dans un coin. Voilà. Et à l'inverse, avoir le patronage, ben, voilà, c'est clair. Là, c'est la chapelle, l'oratoire. Tiens, le bureau du père, ben, tout le monde passe devant. On a ça dans le patron, c'est très clair aussi au Bon Conseil. Hein. Quand on rentre dans la cour principale, on voit tout de suite où est l'église, enfin la chapelle. On voit aussi tout de suite où est le bureau de l'aumônier. Ce qui veut dire aussi qu'on trouve normal et on s'habitue au fait que, ben, oui, l'église, elle est là, elle fait partie de notre vie. Et c'est, quand on dit qu'il faut accepter de perdre du temps, voilà, parce qu'en fait, on ne perd pas du temps, on gagne du temps dans la relation. Moi, j'aime beaucoup l'expression de Don Bosco, qui dit « se faire aimer pour faire aimer Dieu ». Se faire aimer, Ça implique qu'on passe du temps à tisser une relation de confiance, d'amitié. Voilà. Ça y est, ça, on a accroché le cœur et on va pouvoir faire le milieu. Tant qu'il n'y a pas ça, on peut faire des beaux discours, des belles paroles. On ne touchera pas le cœur des autres, hein, de ceux qui sont loin de la foi. Donc d'abord, cette relation-là à tisser, et elle ne se tisse pas premièrement, dans la première étape, dans la chapelle, à l'église, dans une célébration, mais sur le fait qu'on est avec, on est au milieu, on est présent. C'est la famille. C'est hyper important. Et après, bah, oui, chaque prêtre, souvent chargé, fait ce qu'il peut. Et comme je l'ai dit dans l'historique, en fait, il y a eu un déclin aussi bah, avec la chute des vocations, du nombre de prêtres. Et il faut se mettre à la place d'un évêque et qui se dit qu'il n'y a que très peu de prêtres. Bah, il faut qu'il se donne ses priorités. Il n'a pas les moyens de répondre à tout. Et c'est pas évident pour un évêque, j'en ai tout à fait conscience, de dire ben, je vais mettre un jeune prêtre là, dans un patron, qui prend du temps, qui prend beaucoup de temps, et bon. Ça, c'est le réel de la situation actuelle hein, de l'Église.
Merci. Une autre question?
Oui, une question. Merci pour vos témoignages qui sont très très riches. Je voulais savoir si vous aviez eu des réactions positives, négatives, favorables ou défavorables, des fédérations nationales sportives par rapport au patron.
Alors je ne suis pas le mieux placé parce que peut-être quelques éléments aussi. Sur la FSF qui est une fédération affinitaire. C'est-à-dire qu'il y a de multiples activités. Les relations ne sont pas toujours simples avec les fédérations délégataires qui, elles, n'ont qu'une activité. Par exemple, la 3F, etc. Selon les fédérations, c'est très inégal. C'est très diversifié. Il y a certaines congrégations délégataires où ça se passe bien, il n'y a pas de conflit majeur. Il y a d'autres fédérations où c'est un peu à couteau tiré et où il faut clairement défendre son espace.
Oui, pour compléter aussi peut-être, c'est qu'il y a aussi un enjeu économique et aussi par rapport au ministère. Donc les fédérations délégataires veulent avoir de plus en plus d'adhérents et donc ont la volonté des fois d'imposer que les fédérations affinitaires dans leur discipline licencie les adhérents dans la fédération délégataire. Donc c'est plus sous cet aspect-là. Et c'est vrai que sur l'ensemble des beaucoup de patronages, on est plus dans le loisir, donc ça, entre guillemets, c'est moins structuré, donc ça concerne moins les fédérations délégataires. Mais c'est vrai que les fédérations, même la FSCL, même les fédérations affinitaires, essayent d'avoir plus d'adhérents parce que ça il y a des enjeux à la fois financiers, mais aussi, on l'a évoqué dans le petit film, les questions des conseillers techniques. Donc plus on est grosse fédé, plus on a de conseillers techniques qui sont entre guillemets donnés par le ministère. Donc voilà, il y a ces enjeux-là. Et comme le dit effectivement Gilles, il y a des fédérations où il y a des partenariats, notamment que ce soit la FSF, mais aussi l'UXEL, la Fédération sportive de l'enseignement catholique, où il y a des partenariats avec les fédérations, où ça se joue en bonne intelligence, en disant, bah, si on travaille en commun, bah, ça permet aussi que, bah, au niveau compétition, quand ceux qui ont pratiqué en UXEL ou en FSF peuvent aussi pratiquer dans les fédérations délégataires, et puis il y a aussi de nombreuses associations FSF qui sont licenciées dans les deux, donc qui tirent en FSF et aussi, bah, notamment en Fédération française de gymnastique, puisque c'est en grande majorité au niveau de la FSF.
Est-ce qu'il y a des patrons qui sont affiliés à des fédérations françaises? Dans ceux qui font du foot, est-ce qu'ils sont affiliés à la Fédération française de foot? Est-ce qu'il y a des patrons qui sont affiliés à des fédérations délégataires? Ou est-ce que ça reste que du jeu et il n'y a pas de... Ou c'est des compétitions entre patrons?
Je pense que ça dépend, là encore, de ce qu'on met sous le mot patron. Voilà. Il y a clairement des patrons qui gardent le nom un peu patron et qui, dans la réalité de ce qu'ils vivent, c'est plus proche du club que du patron. Et dans ce cas-là, je n'ai pas de choses précises, mais je pense vraiment qu'il y a un certain nombre de patrons de ce type-là qui sont dans d'autres fédérations que celle de la FFCF.
Non, mais c'est pas...
Oui, alors pour compléter...
C'est pas par rapport à la FFCF, c'est non. Juste pour savoir. Et je trouve que c'est très bien, quoi. Parce que ouais. Justement, il n'y a pas de... Les jeunes peuvent aussi pratiquer un sport tout en étant... Je joue, je prie, je pratique un sport, je trouve ça très bien.
Alors pour compléter aussi, ça dépend aussi des disciplines. Parce que notamment au niveau de la FSCF, il y a certaines disciplines qui sont très développées, par exemple la gymnastique féminine, la gymnastique masculine. Il y a d'autres disciplines où c'est moins développé, où il y a moins de compétition, et donc notamment les associations vont être affiliées à la fédération délégataire pour entrer dans des championnats.
Donc oui, ça y a des patrons quand même qui sont affiliés.
Qui ont les deux affiliations, FSCF et. Oui.
Qui sont affiliés à des fédérations délégataires. Parce que je pense que c'était un peu ça, elles sont vraies questions. De savoir comment c'est vu. Comment c'est vu un patron catholique qui est affilié à une fédération. Vous ne pouvez pas prier, par exemple, à un match de foot ou un match de basket quand vous êtes patron et vous allez dans une compétition de basket, par exemple. Un peu ça.
Alors, très clairement, au bon conseil, ils ont tout un ensemble d'équipes qui sont en 3F pour le foot.
Il y en a même à Marseille, il y en a qui sont en 3F,
ça n'empêche pas de prier avant un match de foot. Hein.
Oui, mais justement, comment se vit ça par rapport à une fédération délégataire qui est normalement...
Après un match de foot, ils peuvent prier dans le vestiaire avant le match, il n'y a pas de problème. C'est sûr que s'ils viennent avec l'encensoir et les goupillons sur le terrain de foot, ça ne va pas passer.
Oui, en fait, par exemple, pour donner l'exemple de mon conseil, en fait, ils jouent le même foot que tout le monde d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est un club avec des sections par âge et chacune est dans un championnat et participe à des rencontres avec des clubs qui sont juste affiliés à la FFF. Mais par contre, sur le logo du Bon Conseil, il y a la devise des patronages. Ici on joue, ici on prie.
Voilà.
Sur le logo.
Est-ce que de temps en temps vous êtes interrogé ou est-ce qu'il y a des gens qui vous posent des questions? Est-ce que ça suscite des.
Eh bien, oui.
C'est intéressant aussi ça.
Moi j'ai eu pas mal de témoignages d'éducateurs sportifs du Bon Conseil qui m'ont partagé le fait que les premières interrogations viennent souvent des enfants club qui ne sont pas forcément familiers. Du reste des activités du patronage. Et un jour, ils lisent leur gourde et ils voient ici on joue, ici on prie, bah, pourquoi il écrit ça. Et donc, je dirais que dans tous les cas, le fonctionnement du monde associatif fait que il y a une liberté pédagogique dans un club, il y a avec un projet éducatif. Et donc, même si dans les activités proposées, il y a la pratique sportive, si le projet est chrétien, il n'en est pas moins fermé aux autres. Voilà.